Salut et bienvenue dans le podcast CM au sommet sur la chaîne YouTube Julien Barrière. Je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui. J'accueille Ama, qui est une très fidèle auditrice de mon podcast CM au sommet depuis 2021 et qui a accepté de venir dans mon podcast. Je suis très content parce que c'est une personne qui me suit depuis longtemps et on va pouvoir discuter ensemble pendant 1 heure. Salut Ama.
Salut!
Alors, juste avant de commencer cet épisode, je t'invite à découvrir ma masterclass gratuite pour devenir CM en Vive Pleinement. Le lien est juste en description sous la vidéo et sous l'épisode. Tu pourras aussi retrouver le lien vers ma boutique car je lance des petits produits pour les community managers. Voilà, et ben merci en tout cas de me rejoindre sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. Tu vas voir, on va te montrer des choses, on va partager des choses. Enfin, Ama va partager des choses qu'elle a créées. Et tu pourras aller voir sur la chaîne YouTube et si tu m'écoutes dans le podcast, ben voilà, n'hésite pas à changer entre les deux. Et ben c'est parti. Alors Ama, je suis très content de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux, tu vois, te présenter un peu aux community managers qui nous écoutent, qui ont parfois entre 18 et 27 ans. Enfin, il y a des community managers qui sont un peu débutants, qui ont commencé il y a quelques mois et qui ont quelques années d'expérience. Et puis il y a des social media managers un peu plus expérimentés qui écoutent le podcast également. Donc, qu'est-ce que tu dirais pour te présenter, voilà.
Eh ben, moi, je suis freelance depuis 3 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé dans le digital en 2005. Donc, je suis une ancienne, on peut dire ça. J'ai plus de 7 ans d'expérience en agence et entre-temps, j'ai aussi bossé, bon, pas 100% freelance, mais on appelait pas ça à mon époque. Mais j'avais monté une association où je faisais du freelancing, entre guillemets, et où j'aidais des petits créateurs. Donc, voilà, c'est une très grande expérience, très longue.
D'accord, mais du coup, t'as commencé en 2005 dans une association et tu as accompagné quel type de boîte? Il y avait déjà des boîtes qui cherchaient à communiquer?
Alors en 2005, en fait, c'est même pas, je me suis même pas lancée solo, c'est que j'ai été prise pour un stage. Allez, bon, c'était un peu des stages déguisés, sous forme de salariat, mais bon. On pouvait faire un
Comme
stage avant sans
maintenant.
être payé, mais
Ouais.
je vais pas jouer de la peine parce que j'ai beaucoup appris. C'était dans un label indépendant hip-hop, donc c'est un peu, j'étais affiliée aux relations presse, j'étais assistante de promotion. Et mon rôle, c'était justement de promouvoir les artistes du label sur les forums à l'époque. Donc les forums des magazines spécialisés et auprès des radios. Donc c'est un peu les prémices du social media avant qu'on ait les réseaux sociaux.
D'accord, et t'as fait ça combien de temps?
Je suis restée 1 an. 1 an en train de bosser.
D'accord. Et après, t'as continué
Oui.
en mode
J'ai
association?
continué parce que, bah, en gros, la com, c'est, ça m'est tombé dessus un peu comme une révélation, parce que de base, j'avais fait des études de droit. Enfin, des études, j'ai fait une année de droit.
Ouais.
Après, je suis partie aux États-Unis, pareil, une année où j'avais besoin un peu de réfléchir sur ce que je voulais faire. Et en revenant, parce que j'ai bossé dans une boutique où j'étais un peu chargée de com et adjointe de vente, donc j'ai découvert en fait ce domaine-là. Et le fait d'avoir fait ce stage pendant 1 an, c'est vraiment été une révélation et j'ai voulu rester dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une association avec des copines et on s'est dit, on a plein de potes créateurs, ils savent pas comment faire. Nous, on commence à gérer un peu et on a beaucoup d'idées et de ressources, donc on a commencé à les aider comme ça. Et j'ai repris, bah, j'ai entrepris des études en communication. J'ai fait un BTS communication des entreprises.
Ça, c'était
Et
quand du coup? Parce que
alors
c'était
mon
en
BTS.
2005, les États-Unis, c'était quand? Et le
Alors, aux
BTS?
États-Unis, c'était en 2004. Je suis de
Ah oui,
2003 à
d'accord.
2004 aux États-Unis.
Ok.
Et bah, le BTS, que je me trompe pas dans les dates, je crois que je l'ai passé en 2007 ou 2008. 2008, oui.
D'accord.
Je l'ai passé en 1 an, donc j'en suis très fière de ça.
Ah, on peut faire ça.
Et ouais, on peut faire ça. Et ce qui est sympa, c'est que il fallait que je fasse des stages. Et à l'époque, je n'avais pas du tout. Enfin, pour moi, les grandes boîtes, c'était juste pas possible parce que j'avais pas l'expérience ou j'avais pas encore les diplômes qu'il fallait, même si j'avais un peu, bah, d'expérience à côté. J'ai vu un styliste en fait à la télé, sur Rastili à l'époque, et j'avais adoré son parcours. J'aimais bien la manière dont il parlait, sa vibe et tout ça. Et je me suis dit, ben, allons-y au culot. Je suis partie le voir. Et je lui ai expliqué que je cherchais un stage. Il ne savait pas du tout qu'il pouvait prendre des stagiaires. Il ne savait pas du tout qu'il y avait des gens qui pouvaient gérer sa communication. Et de là, en fait, j'ai bossé avec lui pendant 1 an et demi. Donc, entre mes stages et en même temps, il me confiait des petites missions un peu en indépendante, mais sous le couvert de mon association. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire la main et me construire un réseau, en fait, avec des créateurs qui venaient me voir, qui me demandaient si c'était possible que je les aide sur cette partie-là.
Ok, donc en fait là t'es en train de me dire que t'as regardé un mec à la télé, c'est un styliste, et ensuite t'es allé le voir.
C'est ça.
Genre, et il a dit ouais, en fait je savais même pas carrément. Ok, le truc de fou quoi.
Bah, ça je le conseille à mes étudiants parce que bah, des fois faut y aller au culot. Mm. Parce que les gens n'ont pas. Enfin, je pense souvent que, enfin, en tout cas, moi, à cette époque-là, les gens pensaient qu'avoir de la communication, il fallait passer forcément par une grosse agence et que ça coûtait super cher. Et donc, tout le monde n'avait pas forcément ce budget-là. Et les réseaux sociaux, ben, nous, à l'époque, c'était quoi? C'était Facebook, en fait. Et Facebook, il arrivait très tard en France, en 2008, c'était pas très mature. Et donc, les gens s'imaginaient pas qu'on avait des opportunités là-dessus. Et donc, moi, j'arrivais avec mon petit discours en mode, je peux faire des choses pour vous, il n'y a pas que la télé, il y a ci, il y a ça. Et puis voilà, ça marchait.
C'est énorme. En fait, ouais, t'as plié le game dès le début, quoi. Putain, mais c'est
voilà.
Trop marrant. Ok.
Non intentionnel, mais ouais.
Ouais. D'accord. Et après, t'as continué tes études.
Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, bah, j'ai eu mon BTS. Pour moi, bah, à l'époque, c'était suffisant d'avoir un BTS pour avoir un premier job dans la com. Et en fait, non. Donc, j'ai postulé pour des CDI, pour des CDD, mais j'arrivais pas à me faire embaucher. Parce que bon, soit c'était une histoire de, ok, j'avais des expériences, mais à l'époque, on parlait beaucoup de marketing ethnique. Et le fait d'avoir été dans le domaine du hip-hop et dans la création ethnique, en fait, j'étais un peu, comment dire, cataloguée. Bon, ce qu'on pourrait appeler de niche aujourd'hui, c'était vraiment beaucoup trop niche. Pour les grandes boîtes, en fait, ils voyaient pas la manière, en fait, de, pour moi, de déployer, en fait, ce que j'avais comme expérience, sur, dans leur entreprise. Donc, là, à un moment, il a fallu manger. Donc, j'ai créé un CDI dans une société d'assurance. Mais quand même, là, j'ai quand même trouvé le moyen de faire de la communication. Ce que j'ai refait, c'est que j'ai refait tous les supports visuels à la clientèle. J'ai changé tous les discours aussi, parce que j'étais sur un service un peu particulier, un peu compliqué à comprendre. Et moi, je me suis mis en tête que j'allais vulgariser la chose, et ça a donné des résultats. Voilà. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ma voie. Donc, je suis restée 2 ans effectifs dans la boîte. Pourquoi ? Parce que, bout de ma 3e année, donc, j'ai eu ma fille entre-temps. J'ai profité justement pour ensuite revenir dans le projet maternité et demander un congé pour aller en formation, pour reprendre mes études en fait. Et j'ai repris au niveau d'une licence en marketing digital parce que j'avais commencé à faire le cours du soir en web design. En fait, j'ai un peu touché à tout dans le digital avant de partir en social media.
Ouais, c'est impressionnant. Et ça, cette licence, c'était en 2014, un truc comme ça ou...
Ouais, bah oui, c'est ça, en 2014 exactement. De 2014
bon calcul. D'accord, ok. Ah oui, ben... Et après, après cette licence, là, tu t'es lancé direct dans le social media, par contre ou...
Alors, ça ne te fait rien encore. J'ai vu mon parcours, en fait, c'est beaucoup de strates.
Ouais.
C'est un peu une recherche. Et en gros, je tournais autour du pot, mais j'ai eu une révélation. C'est-à-dire que, c'est drôle, j'ai commencé en tant que traffic manager. Donc, sur ma licence, j'étais en alternance et j'étais dans une agence en tant que traffic manager. Donc, je gérais tout ce qui était réseau display, Google Ads, et on avait des beaux clients comme Bash, Orange, donc c'était assez sympa. Et je voulais pas faire de community management parce que j'avais une mauvaise image du community management. Même si j'en avais fait un peu auparavant, mais je le voyais pas comme ça. Moi, je voyais ce que je faisais avant comme des relations presse, pas forcément comme du community management. Et donc, de là, en fait, j'ai continué en master. Donc, j'étais diplômée en 2017. Mon master, et j'ai toujours fait de l'alternance. Donc, j'ai travaillé en agence. Donc, j'étais ensuite dans ma première année de master dans une grosse agence, qui s'appelle Dentsu, qui est une agence média, où j'étais consultante insight. Donc, on travaille avec des planeurs stratégiques. Donc, là, c'est vraiment, c'est de la pub, hein. On va pas se mentir. C'est l'univers, c'est le monde de la publicité, où là, on va réfléchir à tout ce qui est concept publicitaire. Et c'est hyper intéressant. Moi, ma partie, c'était vraiment d'analyser les comportements consommateurs. Donc, sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, de veille, ce qu'on appelle la veille, le lead, ce genre de choses. Ouais. Et de faire des propositions, parce qu'on on était en avant-vente, ce qu'on appelle en avant-vente en agence, c'est-à-dire qu'on va pitcher, faire la pitch, voilà, aux annonceurs pour leur proposer une direction et pour avoir un contrat, s'il faut.
D'accord. Ah, donc là, t'es monté en compétences assez fort. En fait.
Assez fort, et puis j'ai une petite fierté, en fait, sur cette annonce-là, et que je pense que je suis la seule, à cette époque-là, alternante, à avoir eu l'opportunité d'aller pitcher chez un client. Parce qu'à l'époque, on a eu un appel d'offres pour Radio France, et notamment pour la radio Move, qui s'appelait Le Move à l'époque, et qui changeait en Move, et sur toute sa réorientation vers le hip-hop. Et dans l'équipe, j'étais la seule qui connaissait le hip-hop, parce que bah, de par ma première expérience là de stage d'un an.
Trop bien, excellent.
Voilà, mortel. Donc ça m'a apporté. Et donc j'ai fait toute une analyse sur les cibles. Et un grand patron de Cara à l'époque me voir en répétition, parce qu'on répète les pitchs. Donc, je répétais moi pour ma tutrice qui allait présenter en oral. Ouais. Et en voyant comment j'étais hyper incarnée, enfin, comment j'incarnais le truc, comment je vivais en fait la propale, il m'a proposé d'aller pitcher et on a gagné ce pitch.
Voilà. Wow. Non, là, c'est trop cool, quoi. C'est mortel. Ok, hyper impressionnant. Mais du coup, pour préparer, enfin, pour préparer ce pitch juste vite fait, tu l'as organisé ou t'avais ouais, quelqu'un qui te disait comment faire ou
Ah, c'est machine de guerre hein, quand on est en quand on prépare des pitches.
Ouais.
C'est on est en équipe, donc nous on travaillait en binôme, alors consultant Insight et planner Strat, et donc on était deux consultants Insight, donc moi en alternance j'avais forcément une personne qui était senior avec moi. Et deux consultants de planeur stratégique. Donc l'idée c'est que le consultant Insight, il va faire toutes les recherches en amont. Donc moi en fait mon rôle, on m'a balisé en disant bon écoute, on a une cible, les 14-23 ans, on a besoin de savoir comment ils parlent, plus rap, quel est leur langage, quels sont leurs mots. On veut tout faire, donc j'ai fait une espèce de dictionnaire à l'époque MHD qui personne, donc on parlait de ça. C'est drôle. Donc, de présenter ça aux board seniors qui avaient la cinquantaine et de leur dire, mais la moula, ça veut dire ça.
Ah, énorme.
Okay. Non, c'est vraiment ça. Et on a des steps comme ça et on fait beaucoup. Ben, en fait, on travaille de notre côté, mais tous les jours, on fait un brainstorming tous ensemble. On rigole nos idées et on construit comme ça toute la présentation, ce qui est un storytelling aussi à donner. Parce que le pitch, c'est y a l'aspect créatif où on va réfléchir et avoir une proposition qui tient la route, qui est structurée. Mais on a l'aspect aussi de présentation orale où on doit vendre cette idée que l'on a. En fait, ça se joue beaucoup là-dessus. Il y a des répétitions aussi qui sont faites.
Ah, ok. C'est impressionnant. Et toi, du coup, tu te sentais l'âme de le vendre, le truc, quoi, d'y aller.
Alors
quoi.
Là, moi, je suis ouverte. Tu me vois hyper à l'aise aujourd'hui. Et c'est grâce à cette expérience en agence, à ces expériences d'ailleurs en agence, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Je n'étais pas du tout à l'aise à parler à l'oral, en plus en petite alternante, même si j'avais mon bagage. D'ailleurs, je n'étais pas à l'aise, mais le fait, en fait, on te pousse à chaque fois. En fait, on te pousse à te vendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, parce que j'ai fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que l'école dans laquelle j'étais, j'ai fait un double diplôme. J'étais à la fois dans une école d'ingénieurs, qui est les frais, et dans une école de commerce, qui est le DC Paris Business School. Ils ont fait comme ça un double master ensemble. Et côté frais, donc j'ai appris tout ce qui est partie technique, donc développement web, gestion de projet, côté sur le digital. Et côté école de commerce, c'était vraiment le marketing et l'art de vendre, l'art de se vendre. Et ça, c'est des choses en posture. C'est extrêmement important et ça me sert jusqu'à aujourd'hui quand je fais une propale client et que je lui présente un PowerPoint hyper structuré où je vais lui parler, lui raconter mon idée, lui dire l'embarquer en fait dans ce que l'on va faire pour qu'il puisse se projeter dans la future collaboration. C'est pépite et c'est ça en fait qui me permet de me démarquer par rapport à d'autres CM, quoi.
D'accord, donc en fait la compétence de vendre, tu as vu ça en études, en école de commerce, avec ton double cursus, mais aussi grâce à ton expérience en agence, hein, c'est ça?
En fait, je l'ai pratiqué en agence et j'ai vraiment eu son importance là-bas, quoi.
D'accord. Ah ouais, si t'as gagné ton pitch en agence, ça a dû te booster la confiance, un truc de ouf, quoi.
Ça a boosté la confiance, c'est-à-dire que quand t'es alternant dans ce genre de grande boîte, on sait pas qui t'es. Ouais. Et là, j'avais des grands, des personnes, parce que c'est un regroupement d'agences, en fait, Zensu, donc j'avais une personne que j'avais ni d'Adam ni d'Eve qui connaissait mon nom, qui venait me voir. Okay. Et là, je suis en avant.
Cool.
Je suis faite pour ce métier, tu vois.
Ouais, excellent. Ça te confirme que t'as un truc là-dedans. Là.
Moi, ça a été un truc très fort parce que comme j'ai eu une grosse partie autodidacte, tu vois, avant de reprendre mes études. Et la reprise d'études, en fait, je voulais vraiment avoir un diplôme parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit qu'on peut être CM sans avoir forcément un bac plus 5.
Ouais.
Moi, c'était important, en fait, d'avoir cette structuration. Parce que, j'avais mes connaissances, j'avais ma créativité, mais j'avais besoin, en fait, d'avoir des process qui étaient clairs. Et de pouvoir les éprouver, que c'est important en fait d'avoir ces deux bagages faire. Il y a la créativité dans notre métier, mais il y a aussi le côté structuration qui est très important. Et c'est là qu'on apporte notre expertise dans un client en fait.
Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai un bac plus 5. Je pense qu'il y a beaucoup de social media managers qui ont un bac plus 5. Après, moi ça n'a rien à voir. Mes études n'ont rien à voir vraiment. C'est plutôt dans le tourisme et dans le design. Non, ça n'a rien à voir avec le social media et la communication, mais bon. Mais bon, voilà quoi. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer, parce que tu me l'as dit, on a une conversation par WhatsApp avant de se voir en visio et tu m'as parlé de ça, mais un peu là où tu as grandi, tu vois, expliquer un peu. Enfin, en fait, je te parle un peu, la question sort du chapeau comme ça, parce que T'as expliqué ton parcours, là, il est très impressionnant, je trouve. On n'avait pas parlé de ça par WhatsApp. Et t'as fait des études sur 10 ans, tu vois, ton BTS en 2008 et ta licence en 2014 et ton master en 2018. T'as fait des expériences en stage, en alternance, sont assez massives. Tu vois, t'es allé chercher le styliste sur Strasse, tout ça. Et d'où ça vient cette niaque, tu vois? Enfin, là,
c'est important que tu poses cette question parce que ben, c'est vrai que là où j'ai grandi, en fait, c'est très décisif en fait dans la manière dont j'agis et dont je fais. Donc, ce qui est drôle, j'ai passé mes 4 premières années dans le 16e et après mes parents ont décidé d'emménager dans un pavillon à Trappes, dans le 78.
Ok. Voilà. Ouais, voilà.
Tu vois, ça fait un peu un gap, un grand écart et tout. Et ma mère, elle savait pas du tout Trappes à l'époque, c'était quoi. Pour elle, elle a vu un pavillon, elle s'est dit, bon, c'est dans les Yvelines, c'est la campagne, c'est génial. Et en fait, elle a la taille au milieu des cités.
Ouais. Okay.
Mais je suis hyper contente qu'on ait fait ce choix. Qu'on serait resté dans le 16e, en fait, je pense pas que j'aurais eu la même niaque et la même foule que j'ai aujourd'hui. Et en plus, moi, je fais partie d'une génération de trappistes. On est fiers de ça.
Trop bien.
Génération trappiste, où quand j'étais au collège, j'ai fait mon collège, je sais pas si tu connais, mais avec Issa Doumbia. Et avec le petit frère de Jamel de 12.
Voilà. D'accord, ok.
Génération là.
Ouais.
Et on faisait de l'improvisation théâtrale. Donc, quand t'es à Trappes, en fait, faire de l'impro au collège à cette époque-là, c'était le truc qu'il fallait faire, quoi. Et je me rappelle qu'à cette époque, justement, Issa, lui, il rêvait d'être acteur. Moi, je voulais être journaliste. On avait des potes qui voulaient avoir des entreprises. En fait, on avait des grands rêves. Mmh. Et malheureusement, quand tu grandis dans un lieu comme ça, on te stoppe très vite en te disant « Ouais, non, mais faut pas que t'ailles trop loin non plus. N'oublie pas, t'es dans un collège de ZEP. Même si t'as des bonnes notes. Enfin, moi, j'avais des très bonnes notes à l'époque, mais même si t'as des bonnes notes, quand tu vas te retrouver ailleurs, ça sera pas la même chose. Tu veux être journaliste, mais pour être journaliste, faut avoir un background, faut avoir des relations que toi, t'as pas quand tu grandis à Trappes. » Et ça m'a toujours énervé en fait, d'entendre ce genre de choses, en mode, une espèce de déterminisme, parce que tu viens de tel lieu, t'as pas le droit à ça. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai toujours senti ça comme une injustice, et c'est un peu, je pense, pour ça que je me suis aussi orientée en droit, parce que je voulais faire avocate, j'ai toujours eu ce côté un peu de défendre des valeurs qui sont profondes, et j'ai horreur qu'on me dise une chose, c'est pas possible. J'ai horreur du « c'est pas possible ». Tu me dis ça, je l'entends ça comme un défi, et je te montre que si, ça va être possible, tu vois. Et c'est un peu mon moteur et mon mantra, en fait, à chaque fois, je me dis qu'il n'y a rien d'impossible. Et aujourd'hui, en tant que fond solopreneur, c'est aussi de cette manière-là que je réfléchis pour mes clients quand ils se disent « oui, mais c'est compliqué et tout », je leur dis « t'inquiète pas, on va y arriver ».
T'inquiète pas, laisse ça faire. Ça va rouler tout seul.
C'est ça. Quand on veut, on peut. Et des fois, faut faire. Quand t'as pas, quand tu pars avec un moins 10, hein, tu vois, parce que quand tu grandis dans ce genre de lieu, c'est ça.
Ouais.
Parce que les gens, ils ont un a priori fort pour toi. Et je pense que c'est un peu pour ça que je me suis orientée sur le personnel branding. C'est que les gens, ils ont une perception de toi. Et maintenant, c'est à toi de construire cette perception et de reprendre le contrôle, en fait, de ton image. Et je me suis toujours dit, je viens de Trappes. Ok. Je sais bon, au contraire, c'est un atout. C'est pas un désavantage. Parce que moi, je suis capable de naviguer entre les eaux. Et tu l'as vu en agence, j'étais la seule à écouter du rap, et ça nous a permis de gagner un pitch, quoi.
Ouais.
D'avoir un contrat. Donc, c'est pas rien, quoi.
Ouais, carrément. c'est hyper impressionnant. Et en fait, ce que t'as pas dit encore, parce qu'on n'a pas avancé trop dans le podcast, mais et par la suite, t'as bossé avec des multinationales, quoi. T'as accompagné des multinationales en social media, quoi.
Alors, je me tiens le crâne, parce que jusqu'à présent, j'y crois pas. Je me dis, ces opportunités que j'ai eues, que je pensais pas avoir. Et justement, en parlant de Trappes, j'accompagne, effectivement, quand t'es en agence, tu travailles pour des grands comptes, hein. Surtout quand t'es dans une agence comme Dentsu, c'est pas pour n'importe qui que... Enfin, les clients, c'est vraiment des clients hyper intéressants et très prestigieux. Et donc après, on va faire un petit bond dans le futur, mais j'ai eu mon diplôme, et j'ai attendu quoi. J'ai pris une pause, on va dire, de un mois, avant de reprendre mes recherches pour trouver un job, et j'ai trouvé un CDI tout de suite, quoi. J'ai eu des propositions qui sont tombées tout de suite. De par cette expérience que j'ai eue. Donc, grosse chance, je me suis dit, mais attends, c'est pas les meilleures écoles que j'ai faites, mais mon CV a parlé pour moi, en fait. Et le fait de faire de l'alternance m'a beaucoup aidé, m'a permis de gonfler mon expérience. C'est-à-dire que quand on n'embauchait pas un junior, on embauchait déjà un senior. Et d'ailleurs, j'étais embauchée dans un cabinet de conseil, qui s'appelait Confort. Donc, c'est un cabinet de conseil, mais en même temps, une agence digitale. Donc, on avait un positionnement un peu hybride. Et moi, j'étais le premier CDI embauché dans l'équipe social média. Et notre équipe social media, justement, elle incarnait vraiment cet aspect hybride, parce qu'on était vraiment au centre de l'agence, où on faisait la partie conseil, donc consulting très haut niveau. Donc, j'étais spécialisée dans le secteur bancaire et les assurances. Donc, je travaillais pour BNP Paribas Cardiff, tu vois. Quand on parle de community management, c'est vrai qu'on a cette image un peu, le gars, même moi, c'est cette image-là que j'avais avant de me retrouver dans ce secteur-là. Ou t'es là pour faire des blagues, du lol, et pour animer la galerie, quoi. Alors que beaucoup plus profond que ça, notre métier. Ça, on partait sur des stratégies de pointe. Et en ayant c'est un peu ce positionnement senior dès le départ, un peu senior entre junior et senior, quoi. Bah, on m'a confié en fait des missions qui c'était vraiment sur de la stratégie très pointue, c'est-à-dire accompagner un client sur toute la gouvernance, la gestion de la gouvernance de ses réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait la filiale sur Paris, mais comment on décline une stratégie sur l'ensemble des pays et comment on accompagne et on aide les pays justement à monter en maturité et en puissance pour justement gérer et gagner en autonomie sur cette gestion-là, tu vois. J'ai fait des grosses analyses et des grosses études aussi par exemple, une des demandes qu'on a eues de la part de Orange, par exemple, c'était de faire une étude sur les comportements, les habitudes, les bonnes pratiques social selling, donc le fait de vendre via les réseaux sociaux, et social care, donc tout ce qui est partie gestion de la relation clientèle sur la zone Moyen-Orient-Afrique, tu vois. Donc c'est, toi t'es là, t'es sur Paris, tu as tes automatismes, chez nous c'est Instagram, c'est ci, c'est ça, mais quand tu vas sur d'autres continents et dans d'autres pays, les usages sont complètement différents. Donc en fait c'est bien parce que ça me permettait moi de te refaire une mise à jour en fait à chaque fois de la manière dont je pense et de la vision que j'ai de mon métier. Et surtout de faire preuve d'humilité en se disant, nous, on a nos habitudes, on a nos biais, mais on n'a pas toujours raison, en fait. Et c'est vrai que l'esprit d'analyse et le fait d'être capable de prendre du recul sur ces choses-là, c'est important dans notre métier.
Ouais. Franchement, c'est super impressionnant ce que tu dis. OK. Ouais, t'as commencé en agence, t'as travaillé sur avec des multinationales qui se déploient leurs valeurs, leur stratégie à l'étranger, enfin sur des marchés hors d'Europe, quoi. Et donc ouais, là t'as dû aller chercher les insights, quoi, avec outils, avec des techniques que t'as utilisées dans tes autres expériences. Mais est-ce que toi, quand tu vas chercher tout ça, ces stats, tout ça, tu bosses avec des cabinets d'études qui te fournissent des études, ou non, c'est toi qui vas aller chercher?
Alors, quand j'étais en agence, et d'ailleurs, c'est bien, je suis contente parce que l'approche qu'on avait, c'était qu'on avait effectivement une approche avec des outils, avec des études et ça, vous pouvez trouver. Mais quand j'étais chez Danso, justement, pour ces analyses consommateurs qu'on faisait, on avait un outil interne, donc que Danso avait développé, mis en interne. C'était un panel, en fait, vraiment sur l'étude, des sondages, en fait, qu'on pouvait faire très souvent. On avait un panel, en fait, d'utilisateurs, un grand échantillon, et en fait, l'outil vous permettait, en fait, de processer toutes ces données-là. D'accord. Et je suis désolée pour les anglicismes, processus, je suis pas sûre que ce soit français.
Non, c'est analyser ou...
Voilà.
Ouais, voilà.
Il ressortait, je pense que le terme est clair. Il ressortait, en fait, toutes ces données, en fait, qu'on mettait des critères. Ouais. Et il permettait d'avoir, en fait, les données qui correspondaient à ça. C'est bien d'avoir cette intelligence et ces outils. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle ne va pas venir, tuer nos métiers, en fait. On va apprendre à travailler avec, et moi j'ai toujours cette pratique-là de j'ai des outils, mais on apporte toujours cette intelligence humaine pour sortir ces analyses-là, parce que s'il y avait juste des outils, en fait le client il aurait pris des outils, mais il a besoin de l'expert pour sortir ces données-là, quoi.
Ouais, et puis l'intelligence artificielle toute seule, enfin si tu lui demandes genre des demandes basiques, elle va te sortir vraiment les réponses les plus basiques du monde, quoi.
Ouais, c'est ça.
Au niveau analyse et tout, il faut aller chercher soi-même, et c'est vrai qu'avec là, l'outil surpuissant dont tu parles, là, de Dentsu, je pense que c'est ultra puissant. Après, il y a des cabinets aussi qui s'occupent de ça, genre Kantar et tout ça. Ah, voilà. Bah, tu vois, eux, ils produisent des études pour en savoir plus sur les personnages, les consommateurs et tout. Puis après, t'as les outils de social listening, enfin, qui sont très puissants et qui permettent d'aller chercher de la donnée, quoi. OK. Et toi, t'as appris à te servir de ces outils, mais est-ce que tu utilisais d'autres outils type que certains CM utilisent dans des grandes boîtes, quoi?
Oui, alors les logiciels de programmation, bien entendu, les Onsuite et compagnie.
Ouais.
Toute cette base Sprinkler, mon meilleur ami.
En outil de programmation, enfin là on parle des. En outil de social listening, tu utilisais un truc particulier ou.
Alors on avait. Alors j'en ai eu deux, j'ai eu NestPointer et Talkwalker.
Ouais, Talkwalker, c'est vraiment le plus connu.
Oui.
C'est un peu la machine
Et
de
même
guerre, ce
sans,
truc.
mais quand même beaucoup de recherches à la main, hein, l'air de rien, où bah, on allait sur les sites, on sortait des choses, quoi. On creusait toujours.
Ouais, bah ouais, carrément. Puis tu avais ces outils de social listening et après tu avais d'autres outils pour aller programmer, par exemple. Tu as bossé sur quoi
Alors, sur la programmation, on était sur Hootsuite. Hootsuite, après on avait le client de... Ah, je sais pas, je me trouve sur le nom, c'est le
Ouais.
truc Facebook là.
Ouais, mais en fait, il n'existe plus, non, celui-là, le
Ouais, il y
Creative
a un autre
Machin,
nom
là.
en fait, mais à
Maintenant,
chaque
il
fois.
s'appelle Meta
Ouais.
Business, je sais pas quoi, ouais.
En tout cas, moi, je l'utilise pas. Parce que
Ouais.
j'ai toujours été fâchée avec cet outil-là
Elle était
parce qu'il
horrible, ouais.
est
Je suis
sympa, mais
d'accord. Ouais.
j'avais toujours besoin de plus.
Ouais.
Mais d'ailleurs, là, maintenant, en tant que freelance, j'ai commencé avec Later.
D'accord.
D'ailleurs, j'ai utilisé mon un perso aussi de à l'époque. Quand je me suis lancée dans les 2007-2008, j'avais aussi un blog à l'époque et donc je commençais à m'intéresser à ces outils-là.
Ouais.
Et Later, en fait, c'est un truc que j'ai adopté, je pense, aux alentours de 2017-2018. Et quand je suis passée freelance, je l'ai gardé parce que c'était un des rares outils qui permettait d'avoir la prévisualisation du fil sur Instagram. À l'époque, on n'avait pas vraiment ça. Et plus le temps passe et plus je me rends compte, plus je suis vraiment passée à un espèce de minimalisme, en fait, dans les outils que j'utilise, moi, dans mon quotidien de CM. C'est-à-dire, j'essaie de faire au mieux. Avec des ressources limitées parce que j'aime pas m'éparpiller trop et donc j'ai Later pour lequel je programme pour mes clients. Moi, mes propres posts à moi, je les programme pas. Je les prévois en amont, mais enfin j'ai un workflow assez spécifique. Donc toi, tu
Toi,
utilises?
tu les bosses où? Enfin, tu vois, tu les écris où tes posts et tout? Tu utilises un outil pour ça ou non? Tu fais ça sur Word?
Alors mes posts très souvent c'est sur le portable. Je les écris.
D'accord. Genre sur des notes?
Ouais, sur les notes de mon iPhone, franchement, c'est mon deuxième cerveau.
D'accord.
Après, je les retranscris sur Notion, qui est mon troisième cerveau. En fait, le cerveau central, c'est la plus centralisée.
T'as 10 cerveaux. Ok, Notion. Ouais.
On
Mais,
est
ok,
d'être
ça
à
m'intéresse.
plusieurs.
Ouais,
Enfin,
carrément.
j'essaye de faire. Je parle d'agence, même si je suis toute seule, mais j'ai pas
Ouais.
envie de dire.
Ok, tu notes tes idées sur Notes, et après tu
Ouais.
vas sur Notion, et après
Sur
de
Notion.
Notion, tu copies-colles dans Later.
C'est ça. Et Notion en fait, pourquoi je fais ça? Parce que je fais beaucoup de veille, parce que je suis en permanence sur les réseaux et je m'inspire vraiment de tout ce que je vois. Et
Ouais.
j'ai une espèce, parce que très souvent on enregistre des choses mais on fait rien avec. Et moi,
Ouais.
ma méthode, c'est que les reels, j'en vois un, j'aime, je prends le lien, je le mets sur mes notes iPhone et je note tout de suite les idées qui me viennent en tête avec. Après, pour être sûr que je vais les implémenter, eh ben, je prends ces notes-là une fois par semaine, c'est ce que je fais en général, et je mets tout sur Notion et je construis un calendrier comme ça avec Notion. Donc, pour mes clients, je leur fais un calendrier en amont. Pour moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai des listes de contenu, d'idées de contenu, je viens
D'accord. Ouais.
piocher en fonction des besoins.
Trop bien. Est-ce que tu... Je vais continuer là-dessus. Je vais revenir après sur l'expérience agence, mais je vais revenir. Enfin, je vais rester sur les outils parce que c'est intéressant. Est-ce que tu utilises l'extension Web Clipper, par exemple, de Notion pour enregistrer tes posts ou non?
Pas du tout. Alors, Notion, je suis en mode autodidacte et c'est maintenant là que je commence à vraiment structurer mes connaissances dessus.
D'accord. Ok. Ouais. Ok, ben moi, tu vois, ce que tu dis là, moi j'utilise Notion, je vais le dire quand j'utilise Note, j'utilise pas, ma prise de notes, je la fais sur le smartphone en fait, et sur Notion directement, l'application elle est super bien faite, je trouve, sur le smartphone, elle est encore mieux, je trouve, que sur ordinateur, et franchement, moi, toutes mes notes, dès que j'ai une idée ou quoi, je la mets dans Notion, quand je suis sur ordinateur, quand j'ai une idée, j'utilise l'extension, et ça permet de la mettre dans ma banque d'inspiration. Et j'ai une banque d'inspiration qui se remplit avec le temps, qui est maintenant assez énorme. Mais je la mets à jour, je supprime mes trucs. Mais en tout cas, ça me permet d'être inspiré quand j'ai pas d'idée, tout ça. Et Notion, je range toutes mes thématiques un peu comme toi à l'intérieur. J'ai toutes mes colonnes, c'est on l'a vu Kanban, là. Et j'ai tous mes sujets qui ont en rapport avec moi, ce que je fais, avec mon entreprise à moi. Pour mes clients, c'est un peu pareil, c'est un peu pareil, mais c'est un peu différent. Et pareil, moi, je programme pas forcément pour moi, je programme pour mes clients sur, via Notion, mais pour moi, je vous dis direct, surtout les stories. Peut-être j'essaie de faire l'effort, mais non, je programme rarement pour moi, quoi. J'essaie de programmer une semaine à l'avance les contenus qui vont sortir et d'être plus structuré, tu vois. Quand même, pour moi-même. Parce que je trouve que c'est stressant de sortir au jour le jour, un truc comme ça.
Moi, c'est le contraire. Ça me stresse de trop être en amont. Et je me rendais compte qu'en mettant, plus je me mettais de barre de structure, moi, j'étais dans l'intuition. Ouais. Et moi, je publiais. Ouais. Et là, ça fait 6 mois que je publie un peu au fil de l'eau et j'ai des meilleurs résultats et je me rends compte que c'est beaucoup plus fluide la manière dont je fais. Après, c'est parce qu'aussi, je suis dans une réflexion en ce moment sur la manière de faire, mais voilà, je suis plus dans une méthode intuitive.
Pourquoi t'es en réflexion? C'est quoi qui te pose problème en ce moment?
Ce qui me pose problème, c'est une question de positionnement. Parce que, comme tu l'as vu, j'ai une expérience qui est assez large. Et de par mon expérience, en fait, en tant que freelance, forcément, quand tu travailles en agence, tu as un profil qui est assez recherché. Et donc, même en tant que freelance, j'ai eu la chance quand même de bosser pour des grands comptes aussi. Tu vois, j'ai bossé pour Renault, j'ai bossé pour le ministère de la Culture, c'est pas rien.
Waouh, ok,
du mal, Amnesty International, voilà, du coup, des belles boîtes. Mais en fait, je me suis lancée en freelance parce que, tu as toujours ce petit côté très un peu dans la tête et le départ quand je me suis lancée en com, où j'avais envie d'aider des entrepreneurs en fait à faire développer et faire épanouir leurs projets, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. En fait, ce que je voulais, c'est que moi, mes communications, c'est en fait, ce que j'avais à Kevin dans des grosses agences, je voulais la mettre à disposition, que ce soit accessible justement au plus grand nombre. Et donc en fait j'ai deux casquettes. J'ai la casquette où je travaille avec des grandes boîtes où je passe par des agences de freelance en fait. Je me démarche et avec lesquelles je travaille pour avoir ce type de clientèle. Et d'un autre côté, j'ai moi mon compte Instagram parce que c'est là où je communique principalement. Et mon réseau aussi que je me suis fait l'air de rien avec toutes ces années.
Ouais.
Parce que le bouche à oreille fonctionne très bien. Où j'ai une solopreneur que je vais accompagner. Donc au départ je proposais du community management, après je me suis dit pas très rentable. Parce que c'est quand même beaucoup de travail et donc là j'ai plus un aspect coaching et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui ça fait 4 ans cette année je suis en freelance et j'ai besoin en fait de retrouver en fait les structures et de combiner en fait ces deux identités là que j'ai faites parce que je me suis rendu compte que même dans ma communication j'ai deux identités complètement séparées, voilà. C'est un peu le problème que j'ai.
Tu veux dire, t'as donc la partie tu t'adresses aux grosses agences et qui te transmettent direct aux multinationales, donc t'es les grands comptes d'un côté et de l'autre, t'as les solopreneurs que tu es en personal branding avec des offres plus sur la personnalité, comme tu disais, t'es énervé par l'injustice et c'est quelque chose qui te porte, et du coup ça c'est vraiment...
C'est ma cible de terre en fait. Hein,
ouais, du coup c'est le grand écart. Ouais. D'accord. Et cette réflexion, elle t'a mené où alors? Parce que en fait, t'arrives. Ta problématique, c'est que t'arrives pas trop à te positionner, c'est ça, entre les deux. Tu sais.
Ouais.
Mais est-ce que toi, tu sais avec qui t'as envie de bosser? Tu sais sur quelle cible tu préfères te positionner? Alors,
je sais que, comme j'ai dit, ma cible de cœur, ça reste les solopreneurs.
Ouais.
Ça, c'est totalement parce que c'est des projets sur lesquels je m'éclate en fait, et sur lesquels en fait, où j'ai une plus grande liberté qu'avec une grande multinationale qui a déjà une stratégie qui est établie. Moi, je vais venir peut-être apporter, venir l'enrichir un tout petit peu, mais à mon petit niveau. J'ai pas le même positionnement quand je suis dans une grosse boîte, où je vais parfois même avoir la posture d'un salarié, même en étant freelance, c'est un peu bizarre, tu vois. Ou alors quand je travaille avec un solopreneur, où je peux vraiment déployer tout l'ensemble de mes compétences et ma créativité, vraiment construire le projet de A à Z. Mais après, effectivement, de par mon parcours et de par mes expériences, j'ai une tarification, tu vois. Ton travail, il a une valeur, enfin, parce qu'on parle de prix, et le prix, en fait, c'est surtout la valeur de ton travail, la valeur que tu vas poser sur ton travail. Et il y a un moment, il y a cette question qui s'est posée de, on va dire que 70% de mon chiffre d'affaires, en fait, c'était les grosses boîtes et le freelancing. Et les 30% restants, enfin je parle de 30%, mais on va dire plutôt 20 et 10, parce que j'ai une autre activité qui est la photographie, 20% où c'était des solopreneurs, mais je pouvais pas mettre des tarifs trop hauts, et en même temps je n'y retrouvais pas, et en même temps j'avais envie de me lancer à fond dans ces projets-là, et je me suis vite retrouvée bloquée, et là en fait la réflexion c'était de, je sais que je veux bosser avec eux, mais comment je fais ça de manière à ce que moi ça m'apporte aussi, parce que si mon entreprise avait écrit, en fait je pourrais aider personne.
Ouais.
Tout en leur proposant quelque chose d'adapté. Et donc là, effectivement, j'étais partie sur un aspect coaching, formation, Après, c'est vrai que le coaching, moi, j'ai un peu du mal parce que tout le monde fait du coaching, j'ai l'impression, mais pour moi, le coaching, en fait, ça doit être quelque chose de très structuré. C'est des méthodologies qui sont spécifiques et je voulais vraiment me former à ça avant d'accompagner des personnes. Et donc, je me vois peut-être comme une consultante. Je me présente vraiment comme une consultante à chaque fois. Et où t'as un problème, alors je viens t'aider. Voilà. Comme ça, ça okay. Et c'est un espèce d'hybride où je fais une partie des choses, en même temps, ils font une autre partie, mais j'appelle ça du coaching parce que c'est le terme que l'on donne, mais pour moi, dans mon esprit, c'est pas vraiment du coaching. Et là, aujourd'hui, je suis en train de détricoter toutes ces choses-là et vraiment choisir, faut faire des choix et des concessions, surtout parce que le positionnement, c'est ça. Et d'autant plus que notre métier, il a tendance à spécialiser de plus en plus. Ouais, j'ai commencé en 2005. En 2005, en CM, c'était tu publies et tu fais du lolilol. Voilà.
Voilà, en gros, ouais, c'est ça.
C'est ça, c'était ça le métier. Et moi, après, dans les années 2010, ouais. On est rentré sur une professionnalisation avec de la stratégie. Et là, je trouve que l'on part vraiment sur des choses où on est. C'est même plus. Parce qu'on était sur de l'expertise. Et là, l'expertise, elle est bonne, elle est là. Mais maintenant, on va sur des spécialisations où on va demander à un CM de faire de la vidéo. On va demander à un CM d'être plus sur du rapport et du reporting. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions en reporting, en analytics. Tu vas faire, on va te demander peut-être de faire du copywriting tout en étant CM. Enfin, c'est notre métier est très très hybride et c'est ça, c'est plutôt une bonne chose le fait qu'il évolue dans ce sens-là. Quoi. Donc maintenant, trouver ma place et moi en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter.
Ouais, donc c'est les solopreneurs, c'est ton offre. Enfin, c'est on va dire c'est ta passion quoi, mais au niveau du porte-monnaie, enfin du chiffre d'affaires. C'est du coup ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que là depuis 2-3 ans il y a une série de copywriters qui sont transformés en coach personal branding là sur LinkedIn ou ça, qui sont très visibles.
Pas beaucoup, ouais.
Et eux, tu vois, alors il y en a certains qui ont tout raflé, je pense, au niveau CA, tout ça. Il y a tous ceux qui ont suivi et qui galèrent derrière, mais eux, tu vois, ils ont trouvé des systèmes de qui leur permet de vivre, tu vois. Mais après, ils ont une grosse visibilité, mais qui leur permet de vivre de ça à 100%. Quoi. Toi, ton rêve, c'est de faire ça, de suivre le même parcours, d'en vivre à 100% ou...
Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, je suis obligée d'avoir ces deux casquettes-là pour être sûre de vivre de mon activité. Bon, ça fait 3 ans que je vis de ce que je fais. Je sais pas comment je fais, mais je fais.
Ouais. C'est déjà une grande victoire, en vrai. Enfin, c'est déjà énorme, tu vois.
Non, mais c'est ça, je me rends pas compte. C'est en revenant sur les choses où je me dis, mais quand même, pas mal, quoi.
C'est ouais. C'est hyper difficile, en plus, de faire
enfin,
ça.
C'est très compliqué. Enfin, d'autant plus que, il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent dans le community management. C'est ouais. Des métiers qui sont en vogue, qui sont bien vus. Et qui... ouais. Enfin, moi, c'est une passion, ce métier. Je vais pas mentir, c'est un super métier. Je peux t'épanouir très bien dedans. Mais on a ce côté-là aussi qui est de plus en plus important aussi, je pense, dans notre métier, c'est savoir générer notre propre communication. Moi, j'ai fait une grosse erreur au début quand je me suis lancée. Je me suis pas rendu compte que c'était une erreur, parce qu'aujourd'hui, je parle d'une erreur, mais c'est plutôt une grande leçon. Jamais d'erreur, hein. C'est une leçon. J'avais gardé en fait cette posture dans mon esprit de salarié. C'est-à-dire que c'est mon CV qui parlait pour moi. Je vais voir une entreprise, je lui dis, moi j'ai bossé pour Orange, j'ai fait tel type de projet pour Orange. Voilà, j'ai tant d'expérience, tant d'années d'expérience en agence. Bingo, quoi. On me prenait direct par rapport à ça. Parce que mon CV parlait pour moi. Ça va aujourd'hui, sur un type de solopreneur, leur dire que j'ai fait des grosses études, ou j'ai fait des projets hyper pointus pour BLD ou je sais pas qui, ça va pas leur parler. Ils vont dire, ouais, mais moi, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux, moi. Et cette clientèle-là, en fait, j'ai l'impression que, et c'est pas plus mal, hein, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut faire la preuve, montrer la preuve, en fait, de ce qu'on fait. Le dire, c'est plus suffisant, en fait. Et j'ai beaucoup de prospects qui sont venus me voir en me disant c'est sympa parce qu'on va parler de toi et tout, j'ai bien aimé. Donc c'est la recommandation qui marche beaucoup. Mais les gens sont hyper étonnés de voir mon nombre d'abonnés à chaque fois. En me disant encore, là j'ai dépassé les 1000, c'est bien.
Ouais, ouais, c'est cool. Pendant
longtemps, j'étais à 650, tu vois. Et ça m'empêchait pas de bosser. Mais on se dit, mais en fait, toi, si ta visibilité, elle est pas au top, comment tu peux faire en sorte que moi, la mienne, elle soit top? Effectivement, avant, en 2020, à l'époque, je pouvais dire, écoute, moi, je me concentre full focus sur mes clients. C'est pour ça que j'ai pas forcément besoin de gérer cette partie-là. Mais aujourd'hui, je peux plus juste me contenter de ça. J'ai besoin aussi d'assurer une présence moi-même. Et c'est vrai que c'est un nœud. On va dire, ouais, c'est un nœud parce que c'est un truc à détricoter. C'est un point très important pour les CM freelance, je pense, aujourd'hui. D'être capable aussi de, de se dire que mon travail, il n'y a pas que mon travail qui doit parler pour moi, je dois aussi parler pour moi et ma présence, ma visibilité au service de mon business, quoi, et au service de mon travail.
Ouais, là tu touches au point sensible. Tu vois, je pose des fois la question en sondage sur mon Insta, as-tu l'impression d'être ton pire ou ta pire community manager? Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de CM qui répondent oui, bien sûr.
Oui.
Je suis mon pire community manager. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, tu m'avais dit, en fait, le personal branding, c'est le CV du freelance, tu vois. Et ouais. Et moi, en fait, je regarde beaucoup, je suis dans des groupes de social media manager freelance en Angleterre et aux États-Unis, sur WhatsApp et sur Facebook. C'est deux groupes assez différents. Et en fait, ce que je remarque, c'est que les social media managers, il y en a plein qui font pas de personal branding parce qu'ils bossent pour des grands comptes, tu vois. Ils font pas de personal branding, ils font pas, c'est pas leur cible. Et ceux qui bossent comme toi pour les grands comptes ou quoi, ils vont pas sur les réseaux sociaux, ils y vont jamais. C'est des personnes qui bossent dans l'ombre, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Et en France, nous, j'ai l'impression, après là, c'est vraiment une réflexion, hein. C'est une impression, c'est pas fondé sur des stats, c'est pas vérifié, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression des créateurs de contenu qui sont très visibles et qui nous disent il faut être ultra présent dans le contenu pour choper des clients, tout ça. Moi, je comprends ce point de vue et je comprends ce que tu veux dire, mais quand tu crées du contenu, c'est très difficile, en fait. Le contenu, c'est du long terme, hein. C'est difficile de créer du contenu. On le sait en tant que community manager. Après, toi, tu vas me dire, mais non, il n'y a rien qui est difficile. Et je vais faire merde. Non, mais c'est quand même assez, sans s'arrêter de créer du contenu souvent, c'est quand même, il faut être bien entraîné, quoi. Et quand tu crées pour tes clients et en plus tu crées pour toi-même, enfin c'est double. À la fin, t'as plus rien, t'as ta tête qui va exploser, tu vois.
Ouais.
Et voilà, moi je comprends ça aussi et je me dis bon, j'ai un avis nuancé dessus, mais bien sûr les gens qui sont plus visibles, bien sûr que c'est une trend TikTok que j'en peux plus, bien sûr que,
mais bien sûr,
ah j'en peux plus de cette trend, je la vois. En ce moment, j'ai l'impression que ça va durer pendant un an, quoi. J'en peux plus, quoi. À la fin, c'est avec les boomers dans un an qui vont s'en emparer sur Facebook.
Sur Facebook.
Ah ouais. Non mais voilà, voilà. Bon, après, c'est mon avis à moi, mais je pense qu'en vrai, si t'es visible, c'est mieux pour ton business, en vrai.
Après, faut nuancer. T'as raison, faut nuancer la visibilité. Moi, je dirais que c'est pas forcément une visibilité, mais les gens, ils ont besoin de savoir qui tu es. Ils ont besoin d'avoir confiance en toi.
Ouais.
Tu vois, je pense à des nanas qui ont 30 000, voire même 80 000 abonnés. Effectivement, on les voit partout. Et elles ont une notoriété de par ce fait qu'on les voit beaucoup et qu'on les voit partout et qu'on a l'impression d'être hyper proche d'elles aussi. Et c'est un peu ce que je travaille avec ma clientèle aussi. C'est-à-dire que je fais en sorte, je leur dis, écoutez, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Comme on dit, tout est possible. Il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut trouver, c'est un match, en fait, pour moi. Cette question de la création de contenu, c'est comme les rencontres, tu vois. C'est une question de match. Et justement, nous, en tant que freelance, on a une certaine proximité avec nos clients qu'une agence, ça va pas avoir. Alors que nos clients, moi, je sais que mes clients, c'est limite, c'est ton pied, mon pied, comme on dit chez nous, tu vois. Mon projet, ça devient leur projet, enfin, leur projet devient mon projet, quoi. Et on bosse comme ça. Pardon, et on se comprend, et ils ont besoin d'avoir 100% de savoir que je vais comprendre leur vision. Je parle beaucoup de vision, et dès l'appel découverte, en fait, je parle de ça. Je ne vais même pas parler de mon process, mais oui. Ils ont besoin de savoir que je partage leur vision et que moi, je me vois un peu comme un espèce de mégaphone pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop comment... Ils ont les choses, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne savent pas comment les agencer pour en faire des bons messages. Et moi, je suis là, en fait, pour faire résonner leur message et pour être leur voix, en fait. Et j'ai besoin, en fait, eux, c'est le cerveau et moi, c'est la bouche. Et en fait, tu as besoin d'être hyper relié quand tu es comme ça, tu vois.
Trop bien.
C'est trop bizarre comme image.
Super image. Non, mais franchement, c'est trop cool. Je voyais un cerveau et une bouche. Wow. Non, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire.
C'est ça, c'est important. Et moi, on avait parlé rapidement sur WhatsApp. Oui. Et tu vois derrière moi, tu vois. Mes petites plantes, là.
Ah oui. Mais j'ai vu que tu avais mis une orchidée dans une story l'autre jour. Je me suis dit, ah, elle continue. Ouais,
elle est là, c'est une dame de chemin, tu
ouais, mais.
Mais c'est marrant, mais c'est des points communs que je vais avoir avec certaines personnes qui vont me dire, ah, mais en fait, Je te demande d'accord. Et by the way, j'adore tes plantes. Ou... Enfin, j'ai toujours des super boucles d'oreilles. Enfin, je me la raconte sur ça, mais bon. By the way, j'adore tes boucles d'oreilles. J'avais une cliente, j'ai coupé mes cheveux cette année.
Ouais.
Ça fait un raz-de-marée. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, les gens, enfin, c'est pas qu'ils s'en fichent de mon travail, tu vois.
Ouais.
Si, ils savent que je bosse bien, mais ils ont besoin de savoir, d'aller au-delà du je bosse, elle bosse bien. Ils ont besoin d'avoir un coup de cœur pour moi. Et ça, c'est la même méthode que j'applique à mes clients. On a besoin d'avoir un coup de cœur, en fait, avec les réseaux sociaux. Parce que c'est ça, notre but, c'est de créer de la, bah, une émulation sociale, en fait. C'est refaire ce qu'on a dans la vraie vie sur le digital. C'est ça, notre métier. Et c'est vrai que nous, pour nous, on l'oublie parce qu'on n'a pas cette prise de recul. Mais on devrait appliquer ce qu'on fait à nos clients, à nous-mêmes.
Ouais.
Et après, pas obligé d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, juste avoir des bonnes personnes, quoi.
Ouais. En fait, quand on pense personal branding, on pense millions, tu vois. Mais quand toi, tu l'abordes, c'est vrai que ça fait sens. En fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, la nuance, tout ça, c'était pour les gens qui disent qu'il faut avoir le max de visibilité, il faut avoir 200 000 de portée sur LinkedIn tous les mois, tu vois. En fait, non, on n'a rien à faire, en vrai. Comme tu dis, il faut montrer des petits bouts de sa personnalité pour donner confiance et pour dire, voilà, moi, et pas besoin de raconter des trucs complètement loufoques ou quoi, juste des trucs sur soi-même, quoi, tout simplement, déjà. C'est vrai que l'autre jour, moi, je regardais un post c'était un gars qui écrit des newsletters, je sais même plus comment il s'appelle, mais ça m'a marqué, en fait. Il y avait sa photo et il disait, voilà, moi, j'adore le surf, j'adore surfer. Et moi, j'aime beaucoup surfer aussi, j'en parle jamais. J'adore le surf, je surfe. Là, j'y suis allé il y a 3 jours, je surfe 1 à 2 fois par semaine. Et les gens qui disent j'adore surfer et qui sont freelance, moi, je me sens direct en connexion avec eux. En plus, il a pris sa photo et il était rouge. J'ai fait waouh.
C'est moi.
Moi aussi, souvent, je suis un peu coup de soleil et tout, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et voilà. Et c'est vrai que ça crée facilement des connexions. Mais il faut en parler. Il faut avoir le.
Voilà. Il faut se dire comment j'en parle. Et c'est ça. En fait, moi, mais les stories, c'est Instagram, c'est mon réseau favori et les stories, c'est ma fonctionnalité préférée. Je m'éclate en story parce que, quand je dis, je suis quelqu'un, tu me vois à l'aise comme ça parce que je parle de ce que j'aime et j'aime mon métier donc je m'oublie. Mais, parler, m'ouvrir aux gens, c'est compliqué pour moi et les stories, en fait, c'est un espèce de cocon pour moi où je me dis, il y a mes besties qui sont là parce qu'il y a beaucoup de membres de ma famille, beaucoup de potes, en plus de mon audience, tu vois.
Ok, et, cool.
Que ça l'aide, en fait, pour montrer un peu mes journées. Et c'est vrai qu'à un moment, j'avais arrêté parce que, ma deuxième année de freelance, j'étais en mode, ça y est, la première année c'était de la chance. Aujourd'hui, on structure, on devient une boss girl.
Carrément. D'ailleurs, en parlant de story, attends, il faut que je prenne une photo pour ma story.
Ouais.
Moi, je fais jamais de story. Là, on voit mes notes sur la photo et on voit toi et je vais faire un petit sourire, salut. Voilà. Et ouais, c'est vrai que moi, je story tout ça. Enfin, c'est pas très naturel. Je trouve. Enfin, moi, j'ai beaucoup de facilité à parler aux inconnus, tu vois, par exemple. C'est pour ça que j'ai ce podcast. J'arrive à créer de la confiance avec des gens qui me connaissent pas et qui ont pas envie de parler au premier abord avec moi. Ça, c'est ma grande force, par exemple. Ça, pour l'expliquer, tu vois, pour le montrer, c'est compliqué, quoi. Et c'est pour ça que je fais un podcast depuis 4 ans et j'ai envie de continuer, tu vois. Et je pense que c'est vrai que il faut montrer le truc qu'on aime faire, à mon avis, et le faire en story sur Insta, je trouve, pour moi, c'est pas hyper naturel, je vais t'avouer. Alors que c'est mon boulot, en vrai. C'est bizarre, toi, mais pour moi-même, je trouve que c'est pas très naturel, mais je pense que c'est juste un biais, quoi.
Non, tu vois, il y a les stories, moi, je fais les stories parce que je suis hyper à l'aise, mais quand tu regardes dans mon feed, en fait, sur mon feed Insta, tu vas voir que derrière, il y a des petits marqueurs. Moi, j'appelle ça des marqueurs. Les marqueurs de mon identité. C'est-à-dire que s'il est là, il est pas trop loin, j'ai toujours un appareil photo dans la main parce que j'adore faire de la photo.
Il est cool, ton appareil.
Exactement.
Il est beau.
Il est sympa pour la vidéo.
Ouais.
Et il y a son papa à côté.
D'accord. Ok. Génial. Ouais.
J'ai un appareil photo un peu dans le temps. J'aime pas les banques d'images, moi. Je déteste les banques d'images. Et d'ailleurs, c'est un argument vis-à-vis de mes clients. C'est-à-dire que je leur dis, écoutez, on va pas prendre des images de stock. Alors, de par le fait d'être noir, c'est-à-dire les perles.
Ouais,
je vais pas s'en vendre.
Ouais.
Mais c'est très compliqué. Enfin, très compliqué pour nous de trouver des photos, d'avoir vraiment un panel de choix dans les bandes d'images. Et mes clients, en fait, se reconnaissaient pas longtemps. Et tu leur proposais de leur faire, on va se faire notre propre bande d'image.
Trop bien.
Et donc, j'ai un petit appareil, on se faisait des choses comme ça. Et des natures mortes où je vais mettre des magazines, le orange, tu vas le voir en petite pointe, donc j'ai mon mur qui est ocre, mais j'ai des peaux aussi. C'est pas forcément ma couleur préférée, mais ça me va bien. Enfin. Non, c'est pas un truc que j'ai choisi dans mon vrai
vie.
C'est très vitaminé, ça correspond à mon esthétique, tu vois. Ouais. On n'est pas obligé d'être brut quand on se montre. Des fois, les choses les plus subtiles, en fait, c'est des choses qu'on ne va même pas se rendre compte. Et c'est ça que les gens, ils nous reviennent. Moi, j'ai dit, quand je me suis coupé les lèvres, je pensais pas que ma coupe de cheveux, elle avait un tel impact, en fait, pour ma communauté. J'aurais fait croire que j'avais coupé mes lèvres, ça fait une dizaine d'années que je les ai. Donc, les gens me connaissent que quand ils ne pas connaître bien la fou ou quoi. Le tollé que ça a fait en story. Comment tu as coupé? Mais tu es folle! Mais t'aurais pas dû couper! C'est tellement toi! Et tout. Non, mais en fait, j'ai juste coupé la longueur.
Ah, ça fait vraiment partie de ton identité. Non, ouais, c'est vrai, c'est important. T'as raison.
En fait, on sondait les gens pour savoir ce genre de choses. Et, enfin, j'invite tous les CM. C'est ça qu'on fait pour, comme je dis, on fait pour notre client, on fait pas. Mais c'est important qu'on le fasse aussi, de demander à ses clients, qu'est-ce qui vous a fait venir vers moi? Et moi, je me rendais pas compte, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de très structuré, parce que c'est vrai que j'ai toujours été, le côté autodidacte, et puis le côté très créatif, où, je commence un truc, je le finis pas, je vais sur autre chose, je suis très comme ça dans la vraie vie. Mais j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, on apprécie ta structure avec toi. Le fait, quand je fais une proposition, ça, je t'ai pas donné mon process, je vais te le donner d'ailleurs.
Ouais,
c'est
vas-y.
Intéressant. Déjà, ça commence par un appel découverte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais les appels découvertes, moi, j'adore faire des appels découvertes. Et je kiffe, parce que j'ai besoin d'avoir un premier lien avec la personne et de voir, avant même de dire si je peux l'aider sur son projet, parce que j'ai la chance de ne pas être forcément spécialisée sur un domaine, moi. Pouvoir toucher à plein de domaines. Je fais de la restauration, j'ai fait de la banque assurance, comme je te l'ai dit, j'ai fait de la coiffure, de la beauté, enfin, j'ai touché vraiment à tout dans ce domaine-là. Et c'est vraiment plus une question de est-ce que je vais pouvoir incarner ta vision. Donc vraiment, cet appel-là, je dis 20 minutes en général, il dure 30, 35 minutes, voire 40 minutes.
Ouais.
On blablate, mais c'est un bon moyen de faire connaissance et pour moi aussi de commencer à comprendre. Parce que la personne va venir te voir en te disant, mais j'ai tel problème, et en fait, tu vas te rendre compte que c'est peut-être pas forcément ça le problème. Et pouvoir réorienter la chose pour pouvoir proposer une vraie proposition. Après, je fais une vraie propale, comme en proposition. Merci. Une propale, comme on disait en agence, désolé pour le jargon.
Ouais. Et... Ouais, je dis ça aussi, mais vas-y,
Non, mais c'est ça. Et en fait, ce document-là, je fais un vrai document où je fais un mini-audit de sa présence, je regarde un peu les opportunités, parce qu'on faisait à l'école les SWOT, un SWOT sexy, tu vois.
Ouais, carrément.
SWOT sexy.
Ouais.
Et je vais commencer à lui donner des premières pistes en lui disant, moi, je vous verrai aller vers là. Je vois plutôt ce dommage, cette chose-là. Est-ce que ça sera intéressant d'avoir cette opportunité-là? Et je donne une espèce de planning en disant, en 3 mois, voilà ce qu'on pourrait faire. Sur 1 an, pourquoi pas? En fait, je les aide vraiment à se projeter dans la collaboration. Et je leur envoie cette propale-là, et c'est ce document-là qui fait beaucoup la différence. Parce que là, on me dit, mais tu vas pas juste envoyer un devis, en fait. Parce que, moi, j'aime pas envoyer des papiers, je trouve que c'est trop, pas le recel, moi, j'ai besoin de sentir les gens. Et je leur dis, avant d'envoyer la propale, je leur dis, écoutez, on va se faire un rendez-vous, je vais vous la présenter, donc je pitch à mon client, en fait. Ce qu'on va faire. Et ça, banco. 85% du temps, quand ça fonctionne pas, c'est que la personne n'avait pas le budget en fait, mais après on a eu moyen de s'arranger. Mais 85% du temps, ça fonctionne. Juste pour ça. Et les gens apprécient beaucoup ce côté en disant, mais toi, t'es hyper structuré. Même les rapports analytiques, ce que je fais tous les mois, on a un vrai point éditorial où on se fait le rapport où je débite les performances, j'explique. Puis je suis très dans le partage aussi. Moi, mon but, c'est que même si on arrête de bosser ensemble, j'ai un client, il soit capable d'être un peu dans l'autonomie, parce que j'ai commencé en confinement, en plein Covid. Il y avait des clients, à un moment, ils commençaient avec moi, mais ils n'avaient pas forcément la trésorerie pour continuer. Et je voulais pas les abandonner comme ça. Tu vois, mais ça reste encore dans mon why. Je voulais pas les abandonner et je voulais leur permettre peut-être d'avoir une espèce d'autonomie. Et pour moi, c'est ça, c'est apporter, enfin, notre travail, c'est d'apporter de la sérénité à notre clientèle. Pas sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux font peur.
Oui.
Et nous, on est là pour leur dire en mode, non, mais t'inquiète, ça va être chill. J'ai pas peur, je t'accompagne.
Voilà. Et là, on retombe sur Trap.
Voilà.
Ça va bien se passer, t'inquiète. je le sais, hein, t'inquiète pas.
Ça va le faire. On va y arriver. Tu crois, mais j'ai sorti ça à une ministre.
T'as dit quoi?
J'ai sorti ça à une ministre.
Ah ouais? T'inquiète pas, ça va bien se passer.
Mais ça, c'est ce truc-là, mais je le garde dans mon téléphone, mais hyper précieusement. En fait, au ministère de la Culture, j'ai eu la chance de faire un déplacement ministre. C'est un truc de fou. C'est incroyable comment ça se passe. Et c'était à l'occasion du loto du patrimoine. Donc, on s'est déplacé à Gagny. Et Gagny, en fait, moi, la ville où j'étais quand j'ai fait mes études. Enfin, quand j'ai repris mes études et tout. Donc, j'avais un petit souvenir un peu compliqué, parce que ma reprise d'études, elle était un peu compliquée. Tu vois, être maman avec un enfant en bas âge, reprendre des études et courir partout, c'est compliqué. Et là, on se retrouve là-bas dans un espèce de petit château, une petite bâtisse. Et là, je me retrouve face à... pas Stéphane Plaza. Je sais pas pourquoi j'ai Stéphane Plaza dans la tête. J'ai regardé BFM ce matin, c'est pas bien.
Non, c'est l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle.
C'est celui de Stéphane Bern. Voilà,
ouais, c'est ça. Stéphane. Ouais. Ah ouais, c'est ça.
Stéphane Bern et Rima Abdul-Maram. Et elle venait juste de prendre ses fonctions de ministre et elle était un peu en stress parce que c'était ses premiers déplacements ministre et on devait tourner une espèce de vidéo où elle présentait le tour du patrimoine. Elle était stressée et tout. Et moi, je me retrouvais avec mon petit trépied Amazon à 30 balles.
Trop bien. C'est toi qui l'as filmé, trop cool.
Bah ouais, bah c'est ça qui était super. Par contre, le ministère de la Culture, c'est une émission freelance. En plus, j'ai eu en freelance cette émission-là que j'ai le plus kiffé.
En direct et là, je...
Non, en agence de freelance.
Agence,
pareil.
Ok.
Voilà,
ouais.
Agence de freelance toujours. J'ai pas de prospection, je suis une timide.
Oui, c'est vrai.
Et là, je lui dis, ne t'inquiétez pas, ça va le faire. Ça va se faire, ça va bien. Moi, j'ai pas dit ça va le faire. Attention au langage. Ça va le faire. Je lui dis, mais ne t'inquiétez pas, c'est super. Respirez. On va y arriver. Parce qu'elle stressait. Et là, je me dis, mais quand même, c'est bon là.
Ben, j'ai eu ma revanche. Ouais, c'est clair.
C'est pas de chier, entre guillemets.
On va y arriver. Vous inquiétez pas. C'est franchement, c'est impressionnant parce que ouais, tu t'arrives à dire à une ministre, c'est bon, ça va bien se passer, et en même temps, à le faire aussi à tes clients. Tu vois, tu changes pas de discours, t'es pas en mode, je la raconte parce que j'ai dit à une ministre, tout va bien, quoi. Ça, j'aime bien ce positionnement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se la racontent dans le marketing, tu vois. Donc,
moi, je vais la raconter plus, je pense. Parce que
ouais, je pense que ça, quand tu la racontes un peu plus, mais bon, je sais pas. Je sais pas.
Pour moi, c'est normal, en fait.
D'accord. Ouais, moi, je trouve ça assez incroyable. Enfin, je trouve pas ça normal, mais bon, je suis peut-être le seul ou les SM qui écoutent, ils jugeront, mais...
Ils diront.
Ouais, ouais.
C'est bien, enfin, que je le prends de façon normale. Peut-être que je suis un peu plus en stress.
Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire aussi. Si tu te mets la pression, après, tu t'arrives plus rien à faire, de toute façon.
C'est ça.
Et du coup, si... Tu vois, tu parles beaucoup de... J'ai fait ça avec des agences et tout... ou avec des agences de freelance. T'as bossé avec quelle agence de freelance et comment ça se passe?
J'ai bossé avec deux agences de freelance. La première, c'était Netino Webel. Ils m'ont contacté via LinkedIn, en fait. Je savais même pas que ça existait, parce que bon, pour moi, les choses qui, c'était Malte, parce que j'étais inscrite sur Malte depuis longtemps. J'ai jamais eu une mission sur Malte.
Moi non plus. Moi non plus, mais maintenant, mais moi, j'ai eu.
C'est la galère, je sais pas.
Un échange rapidos.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais, moi non plus, j'ai jamais compris Malte.
Okay. Mais demande, hein, mais, oui. Non, on me teste.
Ouais. Ouais, ouais, pareil.
Et en fait, la première fois, on m'a contacté, en fait, par rapport au fait qu'ils avaient ils voulaient faire un appel d'offres. Ils voulaient monter sur un appel d'offres et ils se trouvaient que j'avais déjà travaillé pour ce client-là. J'avais une connaissance de ce client-là. Enfin, je dis, formation en agence, c'est le mieux.
Ouais.
Mais c'est top de bosser en agence. C'est bon. On est moins payé que chez l'annonceur, mais qu'est-ce qu'on a le fond, dans le métier?
Quand tu dis qu'on est moins payé, c'est parce que, par exemple, ils prennent au TJM déjà, enfin comment ça se passe, ou c'est un
alors,
forfait
ouais,
ou...
alors je te parlais en agence quand j'étais salarié oui. Au niveau du salaire.
Ah oui, mais,
oui, pour les agences freelance c'est au TJM. Alors j'ai commencé j'avais aucune idée en plus quand j'ai commencé en freelance de comment fixer les tarifs et pourtant je connaissais parce que c'est moi qui faisais les devis en agence.
Trop marrant. Ah non mais alors là excuse-moi mais non quoi. Non.
J'ai honte.
Non.
Je vais aller en agence.
Bon. Non mais c'est pas grave. Bon allez vas-y. Tu fais du suspense là.
Mais je savais pas combien je valais en finance et j'ai commencé à 350 euros. Sachant
d'accord.
qu'on m'a déjà vendu en agence à 1050 euros la journée. Après, c'est en agence.
D'accord. Et toi, t'as vendu 350 et eux ils te vendent 1000. Ouais, d'accord.
Et aujourd'hui, je m'affiche à 550.
D'accord.
Enfin, 500. Parce que j'ai rebaissé ouais. encore.
Ah non.
J'ai un coup de. Ouais, allez, l'audace.
Non, mais. Ouais. Les social media managers, ils ont du mal à... Beaucoup de mal. Il y a beaucoup de gens qui ont aucun scrupule à se foutre à 800, 900 la journée et qui sont nuls. Enfin, je suis désolé, mais c'est vrai, quoi. Il y a des freelances, ils sont pas ouf, quoi. Ils se mettent à 900 balles la journée, ils se vendent à 900 balles la journée, tu vois.
Moi, tout dépend, en fait. C'est quelque chose de très spécialisé, que je sais que c'est quelque chose que je vais maîtriser, mais sur le bout des doigts, dans les limites, je suis comme ça quand je suis sur l'écran. Mais, par exemple, ce qui est secteur bancaire et assurance, c'est mon ADN,
ouais.
En fait, hein.
Basse.
Donc,
c'est impressionnant.
Ça, oui, je vais me vendre un peu plus cher parce que j'ai les arguments pour me vendre plus cher. Mais la mission pour le ministère, je ne me voyais pas. J'étais tellement contente déjà d'être au ministère de la Culture.
Ouais, ouais bien sûr. Après, je comprends ton positionnement ouais. aussi. Mais du coup, l'agence, tu arrives, tu dis mon TGM, c'est ça, c'est 550.
Ouais, c'est ça.
Et eux, ils disent non, c'est trop cher ou oui, ok.
Alors, il y a une phase de négociation, ça dépend. Alors, je t'ai pas dit, la deuxième avec la DGT, c'est crème de la crème.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est, bah après c'est des approches différentes. Je fais du name dropping depuis tout à l'heure. J'espère que je vais pas avoir de poursuite.
Non, je pense pas. Tu sais, en fait, en vrai, dans mon, enfin, je pense qu'il y a que des CM qui écoutent mon podcast. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui écoutent, même des gens qui bossent en agence. Je pense pas que ça les intéresse vraiment, quoi.
Ce serait drôle.
Ils vont écouter le Super Daily et trucs comme ça, des trucs vraiment énormes. Mais moi, je pense que je passe sous les radars. Donc tu peux lâcher.
Hein. Donc, ben, en gros. Mais son étudiant, en fait, j'ai pas négocié parce que je commençais. Et c'est au fur et à mesure où bah, j'ai eu la chance parce que j'avais ma tâche lourde avec mon passé qui t'accompagne, quoi, qui est un gestionnaire de compte. Et moi, celle avec laquelle j'étais, franchement, c'était une perle, une crème. Elle était adorable. Et d'elle-même, pardon.
Ouais.
D'elle-même, elle me montait mon TGL. Selon l'émission. Ouais.
Trop sympa.
Où elle me disait, bah non, regarde, mais non, t'es spécialisé dans ça, on peut faire plus. Et puis après, quand ouais. C'était l'émission, j'ai aussi ce côté, ce critère-là. Quand c'est une mission ponctuelle, mon TGM va être plus élevé qu'une mission qui va être vraiment sur la longue durée.
Okay.
Là, effectivement, il y a un confort aussi quand t'as des longues missions. Ouais, les longues missions, c'est des missions de 8-9 mois, tu vois.
Mm.
Fait des missions comme ça. Où, ouais, effectivement, bon, je vais baisser un peu mon TGM, mais parce que là, j'ai une visibilité et je sais que je peux m'organiser. Plus facilement okay. Avec les autres activités.
Mais
de la fin, ouais. On m'a tout de demandé ouais. C'est quoi ton TGM ? Je fais c'est ça. Et ils m'ont dit mais bon, je vais pas ok.
Ils m'ont dit oui trop vite, c'est bizarre non quand même.
Mais en fait, le pire en plus, c'est que je m'étais basée sur une fiche de boss que j'avais vue.
Ouais.
Et je m'étais trompée en fait sur le TGM inscrit sur la fiche de boss. Et en fait, sans vouloir, j'étais plus élevée. On m'a pas dit non.
Ah, okay.
On m'a dit non, avec votre parcours, c'est bon. Je vais. Comme quoi, des fois.
Ok, alors s'ils écoutent le podcast, par contre, ils vont dire la prochaine fois que tu vas bosser avec eux, au fait, on va te baisser ton TGM.
Trop tard. Signé.
Ouais, attends, c'est vrai. Ok, donc t'as signé avec eux et eux, ils te disent, voilà, tu vas bosser tant de jours sur ce client par semaine. Est-ce que ça peut être 4 jours par semaine? Non, c'est pas possible.
Alors, okay. Est-ce qu'on me demande du 5 jours?
Ah, ok. Très souvent, ça t'arrive d'avoir du 5 jours. Sur genre 6 mois, quoi.
Ouais, bah les gros clients, en fait, ils veulent t'avoir à temps plein. Et ils veulent limite t'avoir en exclusivité aussi, parfois.
Ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire que t'as pas le temps de bosser pour un autre client, en fait.
D'accord.
Là, je ferai pas de name dropping, mais j'ai eu une mission comme ça. Parce que, bah, je les adorais, mais je me dis, on sait jamais, ça peut être litigieux. Pardon.
Ouais. Oh. Oula.
Ouh. Ouais. Il est pas mal sorti.
Vas-y.
Je vais pas faire la fin du podcast.
Non, mais on termine bientôt, ouais.
Là, en fait, c'était tellement prenant. C'est-à-dire que, bah, déjà, j'avais 2 heures de trajet. Parce que bah, j'habite en région parisienne, mais je suis dans le sud. Moi, je suis dans l'Essonne. J'ai eu la bonne idée de déménager. J'en ai pas lu. Et, en gros, j'arrivais à 10 heures. Mais t'avais des journées où je partais à 21h30, 22h.
Wow. Et...
pas forcément le temps de finir. Après, j'arrivais à réguler. C'est vrai qu'au début, quand tu fais ce genre d'émission, parce que t'es vraiment onboardé en mode tu fais partie de l'équipe, hein. Et on t'en demande beaucoup, c'est très exigeant. Moi, j'aime bien ce genre d'émission, parce que c'est quand même très challengeant et j'apprends beaucoup dessus. C'est t'as pas le temps. Enfin, j'avais pas le temps de gérer d'autres clients. Et quand t'as un gros client comme ça qui t'appelle et te dit, bah en fait, on veut bosser avec toi. Je vais pas mentir, je mets en stand-by mes autres trucs. Alors, je mets en stand-by, j'avais la chance d'être sur une bonne période où j'avais des accompagnements qui s'arrêtaient. Donc, j'ai laissé à jouer pendant 2 semaines, mais c'était hyper intense. Je fais ça pendant 3 mois, mais quand je fais des missions comme ça, il me faut 2 mois de repos, tu vois.
Ok, mais du coup, c'est... Ah ouais, quand même, donc c'est quand même hyper prenant, quoi. Mais,
hyper prenant.
Mais ça veut dire que tu commences à 10h, tu termines à 21h, comment tu gères ta vie de famille, tu vois, parce que...
Ma pauvre
ta fille. Ouais. Parce que, tu vois,
elle fait une donne de temps en temps arriver chez elle, elle dit mais qui est cette femme là où c'est là, c'est ma mère.
Elle te voit le samedi matin et le dimanche soir.
Je suis vivante, madame.
C'est tout.
Non, alors c'est pour ça que j'ai, bah, c'est pour ça aussi que j'évite de faire ce genre de mission vraiment sur toute une année.
Ouais.
Des fois on m'a proposé des missions de 2 ans, mais non. Parce que bah, en fait je me suis lancée en freelance parce que bah, j'ai quitté les agences. Pourquoi? Parce que je voyais pas ma fille. Je voyais pas ma fille grandir et je me suis dit, j'étais merci des bazars à l'époque. C'était compliqué. C'était hyper compliqué. Quand t'es en agence, très rares sont les personnes qui ont des enfants.
Oui, c'est vrai. T'as raison.
Je crois que c'est corrélé.
Ouais.
Le mode de lifestyle ne correspond pas trop à ça. Et à un moment, en plus, moi, enfin, j'ai démissionné, genre 3 jours avant le confinement. Je m'y attendais pas. C'est le confinement.
Ouais, personne s'y attendait.
Mais j'ai décidé ça du jour au lendemain, parce qu'après, il y avait d'autres petits tas qui rentraient en compte, où je me retrouvais plus vraiment dans ce que je faisais, quoi. Mais, et là, j'ai vécu le confinement, et franchement, avec le confinement, j'ai kiffé. Je suis désolée, c'était une période noire pour beaucoup de personnes, mais moi, le confinement, ça m'a fait du bien.
Ah, mais moi, j'ai lancé mon podcast, hein, pendant le confinement.
Ah, bah, voilà.
Tu vois, alors, ça avait commencé en mars, en avril, je postais le premier épisode, fin avril. Donc, en vrai, ça a été, ouais, et puis ça a été assez intense au niveau des clients qui galéraient tous.
C'est fou.
Enfin, le confinement, je pense que les community managers, c'est les seuls à l'avoir vécu à l'envers. Quoi.
Ah bah
je
ouais. Pense.
La seule profession à avoir vécu à l'envers, le confinement. Mais vraiment, quoi.
Non, mais c'est dingue. Et justement, bah, le fait d'être avec ma fille, en plus, j'avais trouvé un contrat, parce que de base, c'était une agence aussi, ouais. Décidément, qui voulait m'embaucher, mais ils ne pouvaient pas, au niveau des prétentions salariales, en fait, ils ne pouvaient pas s'aligner. Et je leur ai dit, bah écoutez, j'ai un numéro de sirène depuis quelques années. Okay. Très bien, on va l'utiliser. Est-ce que si vous me prenez quelques heures en freelance, ça peut le faire. Et j'étais très bien en fait, c'est-à-dire que je faisais cette mission-là. En plus, c'était hyper intéressant. Mais pareil, j'ai eu la chance de travailler pour Bell, pour mais c'est sur l'Afrique, sur Yves Rocher et tout. Et de voir ma fille. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux dans ma vie. C'est-à-dire que je peux faire mon métier, avoir des choses, des notions hyper challengeantes et où dans lesquelles je me retrouve et je vais pas y aller. Et en même temps, avoir ma vie sociale et ma vie de famille. Et donc, c'est vrai que la manière dont j'organise, moi, c'est pour ça que j'ai cette double casquette, hein. Grand compte et petit client, c'est que dans mon année aussi, pareil, mon année, elle est organisée selon ça. C'est-à-dire que je vais me donner à fond sur une mission grand compte, je me donne aussi à fond pour les petits clients, mais c'est pas pareil, en termes de planning, je vais me donner à fond dessus, je vais me consacrer à 100% dessus. Enfin, je sais que j'assure mon chiffre d'affaires de l'année. Tac, je fais une pause. Là, ça fait 3 ans que je pars 2 mois en Guadeloupe tous les étés. La belle vie, tu vois. Et quand je reviens, ben, je sais que je sais de quoi anticiper et prendre. Après, les missions de cœur avec les solopreneurs, les accompagner vraiment de la main dans le jeu, et en étant sereine, parce que je sais que j'ai fait cette mission-là, et que ça m'a assuré mon année, et que j'ai pas trop de soucis à me faire. Mais là, aujourd'hui, comme je te disais, cette histoire de positionnement, c'est que c'est cool, et moi, maintenant, en fait, j'aimerais bien trouver cet équilibre entre ce que j'aime faire et la petite tête que j'aime bien. Même si j'aime bien les rencontres, mais c'est un moment où je fatigue, quoi. Voilà, faut être honnête.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais juste sur quand tu bosses avec des grosses agents, enfin des grosses entreprises, juste, est-ce que tu peux expliquer ta semaine type, tu vois, juste pour voir un peu, parce que c'est intéressant, tu vois, parce que c'est pas accessible à tous les freelances et tout.
La semaine type, en fait, après ça dépend des clients, mais il y a des choses qui se retrouvent à chaque fois.
Ouais.
Le lundi, ça dépend. Alors il y a des, en général, je suis 3 jours, ça dépend du client, mais il y a des clients où je vais être 3 jours en télétravail, 2 jours en présentiel. Et d'autres qui m'ont demandé une journée présentielle ou une journée une fois par mois comme ça présentielle.
Okay.
Mais on va dire, on va prendre ce cas de figure de 2 jours, 3 jours, parce que là, c'est vraiment intensif.
Ouais.
Ou les 2 jours où je suis présente en général, c'est en début de semaine. D'ailleurs, j'ai 2 jours, non, c'est 2 jours de télétravail et 3 jours de présentiel.
D'accord, ah ouais.
Voilà, c'est vrai que ça leur fait un peu peur de voir ce freelance, en fait, qui ne voit jamais. Ouais. C'est vrai que même, moi aussi, j'aime pas trop n'être en fou. Télétravail non plus, parce que après tu n'es pas en lien avec les équipes mais en prise avec eux et tu peux moins apporter ta valeur quand tu fais ça. Tu as moins de poids en fait.
D'accord.
Et parce que j'ai toujours un brief sur les missions, mais après j'essaie d'aller au-delà du brief. C'est une approche que j'ai. Et en gros, le lundi on arrive, on a un point. Enfin, je commence mes missions. En général, en tant que CM, après je suis social media manager, je suis beaucoup plus sur la partie consulting, ce qui me prend comme consultante, mais c'est vrai que je fais des missions opérationnelles aussi. Le truc de base, tu ouvres les messages. Alors, c'est passé ce week-end, les DM, c'est bon, il y a pas de soucis. Tout va bien. On regarde un peu les stats aussi, ce qui s'est passé, on essaie d'ajuster au cas où, quel envie, tout ce qu'il faut, parce que, quand t'es à ce niveau-là, en termes d'exigence sur les performances, c'est quelque chose, quand même. Tu vois, c'est des comptes avec des milliers d'abonnés, des millions d'abonnés.
Ouais. Ouais. Ah, t'es pas la seule CM à répondre, quoi. Hein.
C'est pas les mêmes enjeux. Ouais, et on se fait un point avec toute l'équipe. En général, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Quels vont être les prochains challenges? Et très souvent, toi, le petit freelance, quand on te prend en consultant, c'est qu'on s'attend à ce que, tu as la petite ampoule, là. Ouais. Ça, je sais pas, mais tu l'as en permanence. C'est-à-dire que, on a un blocage et tout le monde se tourne vers toi, il faut avoir l'idée brillante, quoi. Donc, il faut être en mesure d'avoir des choses. Donc moi en général, c'est vrai que je devrais pas, c'est pas bien. Après je travaille sur ça, mais mes semaines c'est 7/7 en fait. Après le week-end je suis plus en mode chill, dans le sens où les week-ends en fait je vais les consacrer à moi et à ma montée en compétences. formation veille, ce genre de choses. Et dès que je vais tomber sur une idée qui va être hyper intéressante pour un client, je vais préparer une petite propale, enfin, toujours un truc assez structuré, documenté à chaque fois. Il faut prendre ton idée à chaque fois. Pour dire, bah, écoutez, moi, j'ai vu ça, là, ça serait peut-être intéressant d'implémenter ça. Parce que moi, très souvent, c'est pour ça qu'on prend et c'est pour ça qu'on se dit, on veut un freelance et pas forcément une agence. Parce que le freelance, il va apporter cette fraîcheur, en fait. Que les équipes ont déjà l'habitude, ça fait des années qu'elles travaillent ensemble et qu'elles travaillent sur ce même client depuis, elles peuvent plus. L'agence, bah, c'est une grosse structure et des fois, il y a des enjeux tels que, bah, des fois, pour une agence, un gros client, c'est peut-être son chiffre d'affaires de l'année qui joue. Il est un peu frileux à dire certaines choses. Ou toi, en tant que freelance, tu vas avoir une certaine liberté. On va peut-être te pardonner un peu ta candeur, entre guillemets. Parce qu'on veut parler de candeur en disant, c'est bien, hein, mais t'es mignonne, mais nous, en fait, il y a N+1, N+4, N+5 à spécifier.
En validation, t'as 10 boucles, t'es là, ah, d'accord.
Mais tu fais ce qu'elle a à la demande, comme chez Free. Mais on t'attend aussi pour ces petites piques, en fait, de fraîcheur qu'on peut avoir. Et moi, je me suis retrouvée comme ça pour un client à gérer la partie story et à proposer une strate vraiment sur l'aspect story. Et j'étais hyper contente à faire mes petits métrages vidéo. Ça a l'air de rien. Mais
c'est hyper impressionnant. Cool. Ouais. Et ça, c'est le lundi, du coup.
C'est lundi, ouais, c'est le lundi.
Le lundi, il se passe tout ça. Après,
Et après, sans compter les petits trucs qui vont tomber à droite, à gauche et tout, parce que quand t'es dans des grosses structures comme ça, social media...
Tu participes aux réunions, des trucs comme ça.
Ouais, je participe aux réunions. Il y a certaines réunions que je vais pas participer quand c'est vraiment des enjeux qui sont très, très stratégiques. On va dire, non, mais... Que t'as d'extérieur. On t'aime bien, mais tu vas rester un peu à gauche. Au pire, on te dira après. Les réunions où vraiment on m'a dit décodir. On m'a dit, c'est pas qu'on veut pas, mais on peut pas. Pour des questions de mentalité. Après, ça, j'entends. Même si je signe toujours des NDA pour clientèle. Puis même dans tout professionnel, je vais jamais sortir un jeu stratégique dans mes clients. Parce qu'il y a des fois où je suis dans le même secteur et j'évite au maximum de faire ce genre de choses. Et j'ai remarqué, même chez les solopreneurs, les petits clients, ils sont très frileux quand ils se rendent compte que tu as travaillé avec une personne qui est dans le même secteur que eux. Ils ont peur un peu.
Ok.
C'est côté très, mais t'as des secrets, attention, professionnel.
Oui, il y a des ontologies, attention. Non, c'est vrai.
Le mardi, on continue les projets qu'on va avoir. Donc, en général, on me laisse un peu en autonomie. On se revoit encore les mercredis. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a toujours quand même cet aspect où on reste en lien et en contact sur les choses. Le mercredi, en général, qu'est-ce que c'est que ça ? Le mercredi, c'était la réunion avec toute l'équipe marketing. Parce que celle du lundi, c'est l'équipe social media, l'équipe marketing, tu vois. Beaucoup de réunions.
Mais c'est marrant, en fait, tu rentres dans, comme un salarié, tu reviens. Mais par contre, est-ce qu'au niveau de dispo, il y a des gens qui t'envoient des messages sur WhatsApp, des trucs comme ça?
Ouais, on t'envoie, t'es dispo sur WhatsApp, sur Teams, en général, on t'intègre vraiment aux outils de la boîte,
est-ce que toi, tu fixes des limites en tant que freelance? Tu dis, ouais, mais pas jusqu'à minuit.
Alors, j'ai eu la chance qu'on m'a pas envoyé quand même de messages jusqu'à minuit. Ça va dépendre. Il y a des clients quand même, mais il y a un moment qui se permettent d'être, c'est vrai que je prends pas les vraies vacances. Je passe toujours, quand je suis les 2 mois en dehors de France. Mais il y a un moment où je dis, moi je coupe pas tout sorti, mais on avait 18 heures pour Paris. Moi, il est 15 heures, même pas 13 heures là-bas, j'ai fini. C'est pas une urgence, on s'en fera des vies, d'accord?
Ouais.
T'as vu, tu me la gardes au chaud. Je vais répondre après. Après, je fixe des limites, il y a des gens, ils comprennent pas trop les limites, mais moi, je les fixe avec mon téléphone. Je coupe les notifs. Ouais. Et j'ai envie de répondre. Et c'est dernièrement que j'ai commencé à faire ça, je dois l'avouer, mais en termes de charge mentale, charge mentale, c'est important pour un CM.
Ouais.
Et après, mais en général, je suis très dispo. C'est-à-dire que des fois, s'il y a un message, s'il y a une urgence, en fait, je fais.
D'accord.
Si c'est 21h, 22h, si c'est une grosse urgence, on me dit, mais il n'y a vraiment que toi qui a répondu. Et ça, c'est toujours un plus, parce qu'on me dit, ouais, ils apprécient ça aussi en se disant, on va la rappeler quand même pour un autre truc, parce qu'elle était vraiment dispo à 100%, et pourtant c'est une externe, quoi.
Ok. Mais et du coup, c'était la petite parenthèse dispo. Et le mercredi, jusqu'à la fin de la semaine. En fait, la semaine, est-ce que tu bosses un calendrier? T'as des objectifs précis, des indicateurs?
Alors, le calendrier, il est bossé au mois.
Ouais.
Il est bossé en avance, donc c'est toujours un mois, voire des fois même 2 mois d'avance.
Donc ça, tu détestes déjà.
Ouais.
Ouais, mais il y a du monde dessus.
Ce que j'allais dire, en fait, c'est que le calendrier, c'est pas... C'est très rarement que toi qui le gères, parce que très souvent tu vas le gérer avec une agence aussi. Et toi tu vas t'occuper de décliner certains contenus, mais les gros contenus vraiment de brand, de marque,
campagne,
c'est pas toi, c'est l'agence qui va les gérer. Les événements, parce que l'air de rien, il y a beaucoup d'événements quand c'est des grandes boîtes comme ça. C'est toi qui vas gérer sur la partie événements, et ça c'est des choses qui sont très millimétrées. Et là, c'est vraiment de la coordination, parce qu'il y a toi, équipe interne, qui va bosser avec l'agence qui va faire l'idée, qui va bosser avec l'agence qui va construire les visuels, avec l'agence qui pilote la stratégie globale, et avec les pays qui sont en coordination. Donc, en fait, tu es beaucoup dans la coordination dans ces moments-là. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de points, tu vois.
Ouais.
En fait, il n'y a pas vraiment de semaine type, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai du mal à dire une semaine type, c'est que ça change à chaque fois.
Je comprends ce que tu veux dire. Mais par contre, il y a bien un attendu sur les résultats, quoi.
Oui, on attend, après, on m'a jamais foutu, enfin, on m'a jamais mis une grosse pression.
Bah, parce que, en fait, toi, c'est quand même, tu bosses dans une grosse équipe, mais c'est quoi les attentes? Enfin, sur les équipes, je sais pas, mais sur toi, c'est quoi les attentes précises?
C'est ce que je veux dire. Moi, on s'attend à ce que, quand il y a des chiffres qui sont pas bons, on est bloqué, on s'attend à ce que moi, je fasse preuve, je fasse marcher mon intelligence et que je leur apporte une solution. Alors, même si c'est pas une solution, mais faut que je sois force de proposition, en fait. On s'attend à ça de ma part.
Ouais, voilà, d'accord.
Je peux pas rester là.
Même si, ma merde, ça a pas marché. Bon, tant pis, je prends un café.
Non, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Trouver un truc. Toujours orienter solution.
Ouais, il faut être super. Et
je me dis en anglais, parce que c'est des environnements très internationaux. Ouais. Et c'est vraiment une façon de voir qui est très anglo-saxonne et voire même très américaine dans certaines boîtes.
D'accord.
Où on y va. Et on débite, même si t'as du jus de cerveau à la fin de la journée.
Ouais.
T'as donné ce qu'il fallait.
Ouais, d'accord. Et toi, tu joues le jeu à fond et tout. Parce que tu vois, c'est hyper impressionnant ce que tu fais, mais en même temps, quand tu vois ton tarif jour, tu te dis, ça paraît peut-être un peu faible.
C'est faible par rapport à
ce que je fais. Pour sortir des idées comme ça toute la journée.
Et c'est pour ça que je te dis, je peux pas me permettre de faire ça vraiment toute l'année. Puis à un moment, tu as un espèce de gros sentiment d'injustice où tu te dis, mais doucement, si je fais un investissement aussi, tu vois. Mais comment dire, moi je te dis au départ, quand on me dit, c'est pas possible, j'aime pas. Après, je pense que c'est pas par ma personnalité.
Oui, je pense que chacun fait un peu comme il veut, de toute façon. Okay.
C'est même un challenge personnel en me disant, j'ai fait ça quand même, c'est pas mal.
Oui, c'est clair. En tout cas, c'est hyper impressionnant parce que ça rajoute beaucoup à ta crédibilité de freelance, quoi.
Et c'est des choses que je n'ai jamais dites sur mes réseaux.
Il faut en parler parce que c'est du lourd, quoi. Enfin, parce que, il y a le monde un peu de l'agence qui est un peu secret, un peu feutré, avec des égos, je pense, à gérer, tout ça.
Sur ton social media.
les égos, je pense. Ouais. Je pense que ça, c'est le truc qui c'est, ça freine, quoi, tu vois, immédiatement, quoi.
Il y a une compétition interne, je vais pas mentir, et moi, c'est ce qui m'a fait partir,
Ouais.
Et comme t'as vu, même mes valeurs, elles sont importantes pour moi, et je suis très intransigeante sur mes valeurs.
Ouais.
Un peu beaucoup dans les problèmes.
Il y a
des choses que je peux pas supporter, quoi.
Non, mais il y a des gens, dans ces énormes structures, il y a des gens, en fait, ils sont créateurs de problèmes, déjà.
Oh, oui.
Ils sont à des postes de dirigeants, quoi, de managers, ça. Ils font tout pour diviser et tout. Enfin, le pire, je pense, c'est les personnes qui sont vraiment en insécurité personnelle.
Totalement. Alors,
c'est le genre de personne qui dégoûte du boulot et qu'il y a des gens qui partent en burn-out à cause de ça. De personnes sont du freelance, à la suite.
Dans ma position de freelance, et d'ailleurs c'est bien parce que ça me permet d'avoir un certain recul aussi, d'être freelance dans ce genre de boîte. J'ai vu des choses où je me suis dit, mais en fait, comment les gens font pour supporter
tout ça? Oui, parce que tu le vois de l'extérieur. Moi aussi, je l'ai vu après avec mes clients de l'extérieur. Et c'est...
J'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu des points de contact sur lesquels en fait je pouvais avoir confiance, que ça joue un contact privilégié en fait dans ce genre de boîte, dans la personne avec qui tu vas travailler tout le temps. J'ai eu de la chance d'avoir toujours des personnes qui étaient assez bienveillantes, avec qui je partageais les mêmes valeurs.
Okay.
Quand je dis que le feeling est important, parce que c'est par feeling qu'on prend, en fait, ce que genre de personnes me disent, je t'ai pris parce que t'es souriante, t'as l'air vraiment, t'as associé à telle personne, t'as l'air ça. Et c'est vrai que quand tu vois de l'extérieur, après, je dis, mais en fait, c'est comme ça chez vous, mais comment vous faites? C'est pas le choix.
J'ai toujours le choix. Bon, écoute, on va conclure sur ça, parce que c'est 1h20. Ouais. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. J'avais dit, il faut que ça dure 45 minutes, 50 minutes, mais j'y arrive jamais, de toute façon. Donc, voilà.
J'aime bien tes longs épisodes, c'est intéressant.
Mais tu sais que mon plus long épisode qui dure 2 heures avec Adeline Vio, je pensais que c'était... Il dure 2 heures, hein, 2 heures et un peu plus d'ailleurs, 2h05. Et la rétention sur l'épisode, c'est de 60%, quoi. Il y a 60% des personnes qui l'écoutent qui terminent l'épisode. Et je me dis, mais purée, mais c'est incroyable, quoi. 2 heures, quoi, c'est énorme, quoi.
Alors, ils consomment pas d'entrée. Moi, je suis très dans la mobilité. En fait, quand j'écoute les podcasts, soit je suis à la salle, soit je suis dans les transports. Et ça va être peut-être sur 2 jours, sur 4 trajets, et ça passe, en fait.
Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. Après, je sais pas si quand tu coupes et tu reprends la lecture, est-ce que ça calcule sur un
Ah, ça
stop
serait
ou...
intéressant de voir ça.
Ouais, ça, je suis
Parce que
pas
moi, je suis
sûr que
beaucoup
ce
comme
soit.
ça.
Ouais.
Hein.
Sur les
C'est comme ça que je pense.
longs. Ouais.
Voilà.
Enfin, voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Emma,
Merci à toi.
pour ton expérience, pour ton partage d'expérience dans le podcast et sur la chaîne YouTube. C'est vraiment hyper intéressant. Je pense que ça va beaucoup intéresser les CM.
C'est cool. Bah, s'ils ont des questions, si t'as des questions aussi après, moi, ouais, je suis toujours ouverte.
Voilà.
J'aime bien
Ouais,
partager.
bah trop bien. Ouais, bah ça se voit. Mais ça se voit, hein. C'est vraiment très riche. Moi, j'ai posé vraiment toutes les questions qui sont les plus intéressantes, je pense, les plus importantes pour les CM, mais aussi qui m'intéressent moi. Et du coup, bah, je suis OK avec ça. Maintenant, bah, je vais conclure l'épisode. Si toi, tu as envie d'aller plus loin tu as envie de découvrir mes offres, tu peux aller voir le lien en description où tu peux découvrir ma boutique. Mais si tu as envie de rejoindre aussi les abonnés à ma newsletter, tu peux cliquer sur la formation offerte. C'est une masterclass en 3 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Voilà, tous les liens sont en description de l'épisode et sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de liker la vidéo sur YouTube, de t'abonner à ma chaîne et si possible de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Il suffit de télécharger l'application, c'est gratuit pour tous les utilisateurs d'iPhone. Tu vas sur la page CM au sommet, tu descends tout en bas, tu écris ton avis, ça dure environ 1 minute et franchement moi ça donne un gros 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 coup de pouce à mon podcast dans les algorithmes parce que voilà j'ai un objectif de 100 avis voilà hein, j'aimerais bien l'atteindre et là j'en suis à 12. Au bout de... non mais franchement ça fait 4 ans que mon podcast j'ai 12 avis quoi. Et parce que je l'ai jamais vraiment demandé, tu vois. Alors là, je le demande. Si t'es, voilà. Je demande à la fin de l'épisode. La prochaine fois, je demanderai au début de l'épisode, ce sera mieux. Voilà. Ouais, merci, à bientôt.
Merci. Je vous souhaite ça soit sympa. Salut.